Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Laurent Godet. Bonjour, Laurent Godet.
Bonjour, Zoé Perrier.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Perrier sur France Inter.
Laurent Godet, vous êtes romancier et dramaturge. Je vous avais reçu en 2004 le prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta. C'est une présentation de vous un peu classique, non? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour mettre un peu de sel?
Eh ben, je sais pas où on s'arrête là et c'est un peu classique, ou alors on tombe dans les affres de comment est-ce qu'on définit quelqu'un, mais pas que moi. Ce qui est un petit peu sans fin, parce que chacun d'entre nous est plein de choses, donc moi comme les autres, je ne suis pas que écrivain, je suis aussi un fils, un père, un frère, un oncle, toutes ces choses-là, et chacune de ces choses est aussi importante que l'autre.
Et aussi importante que le prix Goncourt.
Oui, bah oui. Écrivain est plus important que prix Goncourt, je suis ravi d'avoir eu le prix Goncourt, mais ce qui me définit c'est d'écrire, c'est pas d'avoir eu tel ou tel prix.
Laurent Godet, vous avez choisi comme journée particulière le 13 juin 2000. Ce jour-là, c'était la première fois qu'une de vos pièces était jouée au théâtre.
Je sens encore leurs mains saisir les membres de mon corps. Je ne suis pas plus grand qu'un lapin, mais je ne sais pas courir. Ils me saisissent et tirent chacune de mes extrémités. La chair se déchire et les os craquent. Une jambe, un bras. Je suis un petit bout de chair démembré et sanguinolent. Mes membres de nourrisson gisent à quelques mètres de mon tronc, dans l'herbe sèche des monts Zagros. Mais ce n'est pas fini. Les hommes qui n'étaient pas de Tepe Sarab n'avaient pas dansé, ni mangé, ni bu, et ils voulaient, le travail accompli, faire la fête à leur tour. Alors ils ont rassemblé chacun des morceaux de chair et les ont fait bouillir dans un chaudron de cuivre. Ils les ont laissés mijoter, et ils ont avalé en riant le ragoût de nouveau-né. Égorgé, déchiré et démembré, le petit Onisos est né. Mais les imbéciles ont oublié le cœur. Et à partir du cœur, mon père, parce qu'il est le maître des dieux, parce que lui a entendu les cris que je n'ai pas poussés, de ses mains d'argile, m'a fait naître à nouveau.
Laurent Godet, c'était un extrait justement de cette première pièce de vous qui a été montée en juin 2000. Cette pièce s'appelle Onisos le Furieux. Ça parle de quoi? Parce que ce qu'on vient d'entendre, cet extrait, c'est assez terrible. C'est l'histoire d'un démembrement. Est-ce que cette histoire est tragique du début à la fin?
En fait, c'est une histoire où je reprends le mythe, les différentes versions du mythe de Dionysos. Donc, dans une des versions du mythe, il arrive à Dionysos cette chose-là, d'avoir été démembré et puis reconstruit par Zeus. Simplement, moi, je fais que l'histoire commence sur un quai de métro à New York et que c'est un vieux clochard qui nous parle. C'est un long monologue théâtral et au fur et à mesure où il va parler et raconter son histoire et donc dire qui il est, où il est né, tout ce qu'il a fait, il rajeunit. Cette idée que plus la parole sort de son corps et plus son corps devient agile et ferme, et que à la fin du long récit, il sera en mesure de revenir parmi nous et de se fondre dans la ville pour régner à nouveau sur ceux qui n'ont pas de nom et sont les rebuts de la société.
Voilà, c'est un texte d'une renaissance. Une renaissance.
Oui, absolument. Mais avec cette fureur
et la rage
mythologique, et puis la colère, et puis l'énergie, et tout ça. Oui.
On peut comprendre qu'il soit furieux vu ce qu'on lui fait dès sa naissance.
Oui, absolument. Et puis c'est une figure de l'appétit, Onisos, parce que c'est Dionysos et que Dionysos est à la fois le dieu, effectivement, du dérèglement, mais aussi du théâtre, aussi du vin, aussi de l'ivresse, tout ça.
De la jouissance, du plaisir, de la violence. C'est un personnage qui va rassembler comme ça une armée de gueuses et de gueux. Pour aller combattre.
Oui, et ça, je me suis inspiré de ce qu'il est dit de Dionysos dans la mythologie. C'est un dieu subversif par rapport à la cité. Il n'est pas dans l'ordre de la cité. Donc effectivement, il est du côté des femmes, puisqu'à l'époque, elles n'étaient pas partie prenante dans la cité, et des esclaves, et de tous ceux qui n'ont pas de place dans la ville. Et ça m'intéressait parce que je me suis dit, c'est... Aujourd'hui aussi, on a des ombres dans nos villes, et elles n'ont même pas de dieu. Donc, est-ce que Onisos ne devrait pas revenir, en fait ?
Pour être le dieu des ombres ?
Bah oui, qu'il y ait au moins quelqu'un qui veille sur elle.
Le dieu des égarés, des perdus, des sans-toi.
Absolument.
Alors, dans l'extrait qu'on a entendu de votre pièce, Onisos le Furieux, c'est Hubert Gignoux qui lisait cet extrait sur France Culture à la fin des années 90. Hubert Gignoux, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, Laurent Godet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui il était et pourquoi il a tant compté pour vous ?
Ben, je suis très ému d'entendre sa voix parce que tout d'un coup, il ressurgit comme ça. J'ai l'impression de le voir avec sa gitane maïs. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Hubert était une grande figure de ce qu'on appelle en France la décentralisation théâtrale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a... toute sa vie a consacré son énergie au théâtre en province. Lui, c'était, alors il n'y a pas eu que Strasbourg, mais essentiellement Strasbourg. Il a obtenu de Malraux que la Maison de la Culture de Strasbourg devienne le Théâtre National de Strasbourg, et ça a été le premier Théâtre National de France. Donc il était acteur, metteur en scène, directeur de théâtre. Comme le Théâtre de Strasbourg a toujours eu une école de comédiens, il était aussi directeur de cette école. Donc il a vu passer des générations et des générations de gens de théâtre qu'il a formés. Moi, je savais pas tout ça quand je l'ai rencontré, en fait. Je l'ai rencontré, j'avais peu ou prou 25 ans, et lui en avait 80. Et au jour d'aujourd'hui, quand je repense à ça, je trouve ça assez beau, en fait, que deux hommes qui sont un au début et l'autre à la fin de leur vie puissent se rencontrer au sens vraiment plein du terme. On s'est parlé comme des amis. Et c'est pas fréquent d'avoir un ami de 80 ans quand on est un tout jeune homme.
Il vous a accompagné dans l'écriture?
Il m'a appris mon métier, en fait, paradoxalement, parce qu'il
est... Écrivain?
Oui, absolument. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un café à Paris, et il avait lu un texte que je lui avais envoyé par la poste, et il m'a dit, je vous propose un compagnonnage, comme il a dit. Et ce mot disait bien ce qu'a été notre relation de travail, c'est-à-dire que je lui envoyais tous les textes que j'écrivais, et il me disait ce qu'il en pensait. Alors il était dur, c'était un homme rugueux, bougon, et extrêmement exigeant avec lui et avec les autres, mais ça m'a poussé, ça m'a fait travailler, et il avait un regard quand même extrêmement pointu sur l'écriture. Il avait fait quelques années auparavant un peu la même chose avec un auteur de théâtre qui s'appelle Bernard-Marie Coltès.
Oui, mais pas des moindres. Il a fait la même chose.
Voilà, il a fait rentrer Bernard-Marie Coltès au TNS. Donc c'était une figure à la fois extrêmement importante, pas du tout connu du grand public,
non.
Très peu, mais qui et puis c'était, je l'ai découvert au fur et à mesure que je lui parlais. J'étais face à quelqu'un qui avait lui-même été formé par les gens du cartel, qui avait connu Jouvet, donc ça créait aussi des filiations ou des rapprochements qui étaient très bouleversants, en fait.
Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit quand vous lui avez envoyé cette première pièce qui sera montée justement au Théâtre National de Strasbourg, Onisos le Furieux, il vous a dit quoi ?
Le tout premier texte qu'il a lu, il l'avait pas du tout aimé. Et c'était drôle parce qu'il a passé une demi-heure dans ce premier rendez-vous à me dire toutes les raisons pour lesquelles il n'avait pas aimé mon texte. Et ensuite, il m'a dit « je vous propose un compagnonnage ». Donc ensuite, je lui ai envoyé d'autres textes. Et finalement, Onisos, c'est le premier texte sur lequel il a réagi avec enthousiasme. Il a dit « là, il y a quelque chose, là, je vais m'en emparer, si tu me le permets ». Il a fait une lecture dans un lieu public. Il a fait une lecture radiophonique. Et là, les choses ont commencé, en fait.
Alors, Onisos le Furieux, Laurent Godet, c'était pour vous un texte inaugural, comme vous venez de le dire, comme si ce texte dessinait les contours d'un territoire que vous n'alliez cesser d'explorer. En 2000, on découvrait un groupe qui s'appelait Day One.
Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show. But it stops right there. And take care of yourself, cause it's all about ourselves, and it stops right there. I'm lost looking in a sea of faces everywhere. Now where did she go? I need to find her quickly to nurse my insecurity. I'm lonely amongst these people, and I need to feel loved, and I need to feel part of something. Is that strange? And why are they reluctant to talk? And why do they look alone when they walk? I see a face but no names. But despite my confusion, I've come to the conclusion that people need people. It's something I forget, but I've come to accept that people need people. And I'm alright, and I'm okay. I'm surviving well without you. And what did you want? And what did you expect? Did you want me to still talk about you? No. No way.
No way.
I'm on my own now. I'm doing fine. No.
No.
No way.
No way.
I'm on my own now. And doing fine. And anyone can give money to a good cause, but it stops right there. And anyone can sign a petition to change a law, but it stops right there. And we can believe in socialism or any theorism, but it stops right there. And take care of yourself, cause it's all about yourself, and it stops right there. But I'm not part of this, I'm not seeing what they're seeing. I'm staring at the ceiling to the world to see what is lying on the horizon. Maybe I'll see you again someday, girl. But despite my ordeal, I still feel that people need people. It's something we forget, but we must accept that people need people. And I'm alright, and I'm okay.
Une journée particulière sur France Inter.
Laurent Godet, ça vous dit quelque chose?
Rien du tout.
Rien, cette rien, musique, rien, rien,
non,
rien, rien.
Non. Mais c'est très bien.
C'est très, ça vous plaît quand même?
Oui, oui, ça me plaît beaucoup. J'ai pas dû beaucoup écouter la radio en 2000, je m'en rends compte. Mais non, ça me dit rien du tout.
Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, le 13 juin 2000, c'est votre journée particulière, Laurent Godet. Ce jour-là, votre pièce, Onisos le Furieux, était jouée pour la première fois au Théâtre National de Strasbourg par le comédien Jean-Yves Dubois de la Comédie Française et mise en scène par Yanis Kokos. Il se trouve que Yanis Kokos avait été le scénographe d'Antoine Vitesse.
Absolument.
Et que toute l'équipe de votre spectacle avait aussi travaillé avec Antoine Vitesse.
Mmh.
Et vous, Laurent Godet, vous qui n'aviez jamais connu Vitesse, c'est comme si vous l'aviez rencontré.
Le théâtre que j'ai appelé élitaire pour tous, il y a quand même là une petite provocation et une malice dans cette expression, parce que les deux termes sont contradictoires. Si c'est élitaire, c'est pour quelques-uns. Bon, la happy few,
oui,
dont parlait Stendhal. Si c'est pour tous, alors c'est pas élitaire. Eh bien, c'est cette contradiction, ce paradoxe, exactement, c'est ce paradoxe que je voudrais développer. Et je voudrais simplement témoigner de mes sentiments ici démocratiques. C'est-à-dire que, en quoi consiste, à mon avis, la démocratie en matière d'art? Il s'agit non pas de nier que l'art du théâtre est un art de connaisseurs et demande des connaisseurs, mais d'élargir le cercle des connaisseurs. C'est ça le mouvement démocratique du travail théâtral, élargir le cercle des connaisseurs.
Je vous ai coupé la parole, Laurent Godet, pour vous faire écouter Antoine Vitesse. Est-ce que c'est vrai que c'était un peu comme si vous l'aviez rencontré, le fait de travailler avec tous ces gens-là sur cette première pièce?
C'est ce truc qui est très beau dans le théâtre, c'est que c'est un lieu de transmission permanente, en fait. Et donc, effectivement, le tout jeune homme que j'étais n'a pas cessé, pendant ce mois de répétition à Strasbourg, d'entendre parler des gens plus âgés que lui et qui avaient comme référence constante vitesse, tel spectacle qu'ils avaient fait avant. Et donc, il y a forcément quelque chose qui se transmet. Et encore aujourd'hui, c'est ma référence permanente au théâtre, mais aussi dans le reste, c'est-à-dire que...
Dans l'écriture ?
Dans l'écriture en général, quand on parle beaucoup de théâtre populaire, et c'est pas un gros mot, dès qu'on dit roman populaire, déjà, on a l'impression que ça l'est un peu plus. Mais, mais moi, quand je le dis exactement à la vitesse, si je puis dire. C'est-à-dire que le souci d'une culture qui soit partagée, en fait, ça revient à ça.
Est-ce que vous diriez de vous, Laurent Godet, que vous écrivez des romans populaires ?
Au sens où vitesse parle d'un théâtre populaire, oui, j'espère, bien sûr, bien sûr.
Est-ce que vous vous rappelez de la première rencontre que vous avez eue avec ce metteur en scène, Yanis Kokos ?
Alors là, non, je me souviens pas de la toute première rencontre. Je me souviens de beaucoup de choses, des répétitions. Je me souviens de la manière dont Yanis m'a fait une place en tant qu'auteur dans la salle de répétition.
Oui, parce que vous étiez tout jeune, intimidé,
oui,
certainement,
absolument.
Un peu muet.
Et maintenant que j'y repense, je sais qu'il a eu cette attention-là aussi de me montrer comment ça marchait, en fait, de m'intégrer pour me montrer comment ça marchait.
De vous donner la main.
C'est toutes ces raisons qui font que pour moi, c'est Onisos le Furieux. À Strasbourg, en 2000, c'est inaugural.
Oui. Écoutez ce que disait de vous Yanis Kokos.
Il y a eu une rencontre qui était très importante pour moi. J'ai découvert dans un tapuscrit, à un certain moment, un texte qui s'appelait Onisos le Furieux. Et soudainement, je me suis dit, voilà, ça c'est un texte que vraiment je veux absolument réaliser. Et j'ai rencontré Laurent Godet, qui à ce moment-là m'avait écrit pratiquement rien. Et nous nous sommes rencontrés, d'ailleurs je me souviendrai toujours, dans le bar de l'hôtel Lutetia. C'était un très jeune homme. On a tout de suite eu un rapport, on était allé avec Anne le voir, et puis il a eu quelque chose de très immédiat, à vrai dire. Et je dirais, voilà, ce que j'ai énormément et que j'aime énormément chez Laurent Godet, c'est que ce n'est pas un auteur franco-français. C'est un auteur qui s'inspire absolument du monde et sont des effets comme ça de grandiloquence.
Pas mal, non, Laurent Godet ?
Oui, alors vous voyez, la mémoire est étrange. Je ne me souvenais pas de cette première rencontre et maintenant que Yanis en parle, tout se déroule. Et je me souviens, il a l'élégance de ne pas le dire, c'était la première fois qu'on se voyait, je suis arrivé horriblement en retard. Et donc j'étais dans un malaise total, titubant et en sueur parce que j'avais couru, c'était horrible, horrible, horrible. Il était gentil, il m'a dit mais c'est pas grave, asseyez-vous. Enfin voilà, oui, toute la séquence revient, vous voyez, c'est marrant. La mémoire qui nous échappe mais qui est pourtant là quelque part dans la tête parce qu'au fond... Au fond, maintenant, j'ai chaque image. Ouais, je me souviens que Anne, sa femme, était là aussi. Et, ouais. Oui, non. Mais c'est très beau ce qu'il dit. Moi, je prends.
Vous prenez, bah oui.
Bah,
oui.
Je prends, oui, oui.
Vous dites que ce texte, Onisos le Furieux, c'était un texte inaugural, comme si vous étiez entré dans votre écriture, que vous aviez trouvé avec ce texte votre écriture, et qu'on retrouve dans cette écriture justement l'articulation entre le monde antique et le monde contemporain. C'est ça qui se passe avec ce premier texte, en plus de toutes ces rencontres merveilleuses.
Oui, oui. Il y a dans Onisos le Furieux des tas d'éléments qui seront ensuite repris, déclinés, approfondis. Et donc, effectivement, il portait ce texte-là quelque chose d'une sorte presque de définition d'un certain nombre de choses qui sont en fait
vous.
Mes thèmes et
oui,
moi.
Vous, ouais, vos thèmes, ouais, votre écriture, comment ouais. Vous tissez, comment vous mêlez, comment vous croisez les
alors,
époques.
Probablement le rapport entre l'antique et le monde moderne, ouais. Effectivement, cet aller-retour, cette verticalité.
De l'histoire, j'aime beaucoup cette ouais. Image, parce qu'il ouais. Faut qu'on la comprenne, parce qu'en même temps, ce n'est pas une superposition.
Non, moi j'ai toujours été frappé par les résonances et les échos qui nous inscrivent dans cette verticalité. C'est-à-dire que je pense qu'on est, nous, hommes et femmes contemporaines, on est aussi très antiques, ouais. Et tas de choses qui n'ont pas bougé et qui nous rendent proches encore aujourd'hui de Médée, de Hécube, de tas de personnages qui peuvent paraître très lointains, mais qui en fait nous parlent de nous aussi. Y a aussi quelque chose probablement dans Onisos de la nature de l'adresse, de la nature du rythme et du comment dire
du monologue.
Ouais, c'est comme ça que j'ai envie de parler au lecteur, en fait. Donc, il y a plein d'éléments comme ça, effectivement, qui font que ce texte-là, même si beaucoup de temps a passé, parce qu'il a été écrit en 96, en fait, il est très proche encore aujourd'hui de ce que je suis.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut, il faut préciser que vous n'écrivez pas des textes historiques? Pas du tout. Vous n'êtes pas exhaustif. Et j'aime beaucoup cette idée-là, c'est que vous pillez les choses, vous tordez le réel pour en faire autre chose.
L'idée n'est jamais de faire une nouvelle version du mythe, l'idée c'est de me l'approprier. Donc ça, il faut y aller avec un peu d'irrévérence aussi, sinon ça marche pas, je trouve.
C'est pour ça que vous employez vous-même le mot piller.
Oui, absolument.
Qui me plaît beaucoup, ouais. J'avoue, parce que c'est assez violent, vous prenez ce que vous
mais
voulez.
Mais oui, mais je m'en sens la liberté parce qu'il y a marqué théâtre ou roman, moi, sur mes livres, il n'y a pas marqué histoire. Moi, je suis là pour amener de la fiction, c'est-à-dire amener aussi une résonance avec ce que nous sommes aujourd'hui, donc je vais la chercher, je la construis, effectivement.
Alors, vous parlez de mythologie, vous parlez de notre goût de l'antique, comme nous sommes des êtres antiques, et moi, je pense à un personnage pour lequel je pense que vous avez un attachement particulier, c'est Hécube. Hécube, la reine de Troie, la femme de Priam. Hécube que Maria Cazares a joué dans une mise en scène de Bernard Sobel à la fin des années 80.
Les personnages sont comme des amis. Parfois des amis lourds à porter, non lourds à porter, des rétifs, de non rétifs, etc. Hécube, ça a été une sorte de compagne douloureuse, mais très. C'était vraiment très douloureux. Parce que c'est elle draine vraiment jusqu'au fin fond de quelqu'un comme ça. Elle draine tout comme ça. Mais alors une compagne assez extraordinaire où tout d'un coup on a l'impression de d'être là sans cesse pour une raison absolument vitale. C'est l'urgence et c'est où je me sentais dans un accord tellement profond avec elle
oui.
que vraiment ça devenait une chose je sais pas comment expliquer ça, mais ça a été la compagne la plus qui m'a touché peut-être le plus profondément. Je vous dis, c'est quoi, que c'était quelqu'un dont tous les mots me paraissaient absolument nécessaire à dire.
Magnifique voix de Maria Cazares.
Magnifique. C'est fou quand même la vie d'une voix. Moi, je trouve que là, quand on entend, c'était pareil avec Hubert Gignoux tout à l'heure, tout ce qui vit dans cette voix-là, là, on entend un peu le sud, il y a une pointe d'accent, on entend cette espèce de rocaille qu'elle a et qui fait que sa voix est absolument stupéfiante. Et puis, il y a des éclats de rire, enfin, il y a une énergie aussi, une espèce de nervosité. Enfin, moi, je suis très bouleversé par ça et au fond, je pense que c'est... J'écris plus pour la voix que pour le corps parce que, par exemple, en écoutant cette voix-là, ça, je sais que ça me donne envie d'écrire. Là, je pourrais commencer.
C'est une voix qui vient de loin.
Ouais, j'ai l'impression je sais pas quel âge elle a, cette voix-là.
Des millénaires.
Elle a des millénaires, elle a vécu beaucoup de choses. Probablement énormément de rôles de théâtre qui se sont comme ça sédimentés en elle. Et puis, il y a tout le reste de sa vie, que je connais pas par cœur. Mais enfin, c'est quand même une grande dame qui a accompagné Albert Camus. Il y a tout ça. Alors moi, je le savais pas à l'époque où je l'ai vue sur scène. Hein, mais probablement que l'émotion qu'on avait en tant que spectateur était aussi due à tout ce qu'elle amenait quand elle arrivait sur un plateau. Et ça, c'était sa personnalité.
Est-ce que vous pensez, Laurent Godet, qu'elle vous a donné, Maria Cazares, peut-être ce goût, elle a participé à vous donner ce goût de l'antique, ce goût du mythe, et peut-être même le goût de la Méditerranée?
Alors, le goût du mythe, oui, sûrement, elle y a participé. C'est pas... Il y a les textes aussi, hein, il y a le plaisir de ces textes-là, mais le fait qu'ils soient incarnés de manière si vivante, le spectacle dont on parle, là, la mise en scène de Sobel en 1988, moi, je suis allé la voir deux fois ou trois fois, je crois, juste pour rester avec ce moment-là, en fait, qui était si fort pour moi. Donc, évidemment, ça participe à l'amour que j'ai développé pour et le théâtre et l'antiquité au théâtre. Après, la découverte du Sud, ça s'est joué autrement. Ça s'est joué par les voyages, quand même. Les voyages que j'ai fait. D'ailleurs, dans ces années-là, hein, entre 16 et 22 ans, la découverte de la Sicile, la découverte des Pouilles, la découverte de l'Andalousie, de Malte, de la Tunisie. Donc ça, c'est très important, mais c'est pas dû à Cazares.
day. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I've got my own special way. I know Jesus loves me. Maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday. That's the Rev. Lee's candy store. Well, I've got to be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus. Keep me satisfied. Well, I don't want no apples, apples. Don't want no almond joy. There ain't nothing better than suitable for this boy. Well, that's the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. It's the only chocolate Jesus that satisfies my soul.
Laurent Godet, vous parliez des voix, vous parliez de la voix de Cazares qui vous donne envie d'écrire, peut-être que celle de Tom Waits aussi.
Ah bah oui, non mais là vous sortez le grand jeu, c'est formidable. Non mais quelle voix, quel univers avec les poules qu'on entend au loin et cette espèce de fatigue, moi j'adore ça. J'aime beaucoup quand les voix trimballent quelque chose d'une, encore une fois, d'une sédimentation. Et chez Tom Waits, on a l'impression que il y a toute sa vie qui sort dès qu'il prononce un mot. Et puis c'est la Sainte Trinité. Tom Waits, Leonard Cohen et Bob Dylan, c'est la Sainte Trinité. Donc merci, merci.
C'est des vieilles âmes, c'est ça que vous entendez dans les voix. Vous aimez les vieilles âmes.
Oui, j'aime bien ça, effectivement. Et puis j'aime bien le mélange, en fait, de fatigue, d'usure et d'énergie. Et il y a ça chez Tom Waits, parce que là, dans cette chanson, on est plus sur une sorte de ralenti un peu fatigué. Mais il est aussi capable d'une énergie toujours rocailleuse, mais très éruptive, très incontrôlable. Moi, j'ai la chance de l'avoir vu en concert il y a longtemps. Il y a aussi beaucoup de corps et de force. Donc, moi, j'aime bien ce mélange-là, effectivement. Qui est un peu désarçonnant et qu'on ne sache pas dans quoi est-ce qu'on s'installe. Et très modestement, mon Onisos est aussi un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il démarre très lentement, on est dans la fatigue, la vieillesse, et puis tout d'un coup, il devient bravache et souverain.
Il renaît. Le 13 juin 2000, donc, c'est votre journée particulière, Laurent Godet. Ce jour-là, c'était la première fois que cette pièce, Onisos le Furieux, était jouée au théâtre. Dans la préface de la dernière édition de ce texte, vous écrivez, Laurent Godet, je vous cite.
Attention.
Vous n'avez pas intérêt à vous contredire. J'apprécierais pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de faire résonner la voix éraillée du tragique. J'y peux rien, on n'avait pas prévu.
Voilà.
La pulsion du vivant. Le muscle et la sueur face aux larmes et à la défaite. Et moi, je me suis dit, Laurent Godet, que la défaite, c'est quelque chose aussi qui traverse vos textes. Il y a bien sûr eu votre magnifique roman « Écoutez nos défaites », dans lequel vous avez encore mêlé plusieurs récits, plusieurs époques, de l'Antiquité, de la guerre de sécession et du XXe siècle, avec le Négus, le roi de l'Éthiopie, Haïlé Sélassié.
Monsieur le Président, Monsieur le Président, l'Assemblée de m'excuser, je ne m'exprime pas en français comme je l'aurais voulu. Je dirais mieux toute ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique. ጦርነቱ እንደተጀመረ በ1935 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የኢጣሊያን የአውሮፕላኖች በጦር ሰራዊት ላይ የጋዝ ላክሬሞጀን ያለበት ቦምብ ጣሉባቸው።
Laurent Godet, vous avez reconnu, c'est un extrait du fameux discours de Haïlé Sélassié à la tribune de la SDN en 36. Discours de la défaite.
Discours de la défaite absolument magnifique, qui résonne encore aujourd'hui, où Haïlé Sélassié, bien qu'étant en exil de son propre pays, et donc effectivement complètement défait, prend à partie le monde entier, en fait, pour lui dire en gros, si vous abandonnez l'Éthiopie aujourd'hui, vous allez à votre propre destruction. Enfin, je simplifie son discours, mais...
Si vous l'abandonnez aux mains de Mussolini.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, au démarrage de l'archive que vous avez passée, on entend beaucoup de tumultes dans l'Assemblée, qui sont dus aux salopards pro-mussoliniens qui sont dans la salle et qui ne veulent pas le laisser parler et qui l'insultent, qui tiennent des propos racistes, etc., et qui sont venus faire un petit peu le coup de force dans la salle. Ça, c'est une chose que moi j'aime bien me rappeler, c'est que il faut faire attention quand on regarde les moments historiques, on a toujours l'impression qu'ils sont forcément historiques dès le début. En fait, très souvent, ils sont entravés par de la médiocrité, ils ne sont pas vus au moment même comme étant historiques et ils ont du mal même à s'imposer. Haïlé Sélassié doit attendre longtemps avant de prendre la parole. Ce moment qui devait être pour lui, j'imagine, un beau moment, il a préparé son discours, il rentre dans la salle, il sait ce qu'il veut dire. Et ben en fait, il est parasité par de la laideur et ça c'est important de le garder en tête aussi.
La bêtise.
Et de la bêtise et de la monstruosité parce que ils sont envoyés en commando les gars qui hurlent et qui pour corrompre ce moment-là dont probablement Mussolini pressent qu'il est dangereux pour lui.
Alors, on dit que vous dites dans votre roman que c'est le discours de la défaite, ce discours de Haïlé Sélassié. Et moi, la défaite, je trouve que c'est ce qui sous-tend aussi votre dernier livre qui s'intitule « Nous, l'Europe, banquet des peuples ». Parce que vous, dans ce livre, en quelque sorte, vous nous rappelez de quel sang et de quelle chair est née cette utopie qu'on a nommée l'Europe. Et c'est du sang et de la chair de nos défaites, de nos faillites. Est-ce que cette lecture vous sied ?
Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on oublie trop vite à chaque fois à quel point l'Europe est morte à un moment donné. Elle a disparu, en fait. Techniquement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'on peut dire que l'Europe est un champ de ruines, d'une part, et que, au-delà même des ruines de nos villes, l'Europe est un trou noir de l'humanité. On découvre ce que l'homme a fait à l'homme dans les camps de concentration. Enfin, à ce moment-là précis de l'histoire, on est dans le précipice, on n'est même plus au bord. Et la construction européenne vient quand même tenter de proposer un nouveau départ et donc une formidable utopie. Et cette chose-là, effectivement, c'est bien malheureux, mais j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié. C'est-à-dire on a oublié que la construction européenne est fille de l'utopie. Elle l'a été pour les gens qui commencent à réfléchir à l'Europe dans les années 50, par exemple. C'est totalement inouï et incongru de se dire on va se mettre tous ensemble. On vient de se battre, de s'étriper pendant deux guerres mondiales, et même avant, on se battait encore. Et tout d'un coup, on commence à réfléchir en termes de lier nos destins et essayer de se parler autour d'une table. Si ça, c'est pas de l'utopie, je ne sais pas ce que c'est. Et ça devrait nous faire prendre conscience que c'est une aventure absolument merveilleuse. Alors, bien sûr, il y a des tas de sujets de colère, d'insatisfaction, et je ne les nie pas, et je les ressens aussi. Mais pour autant, j'ai l'impression quand même que n'oublions pas de mettre en avant le fait que 27 pays qui décident de se mettre ensemble, c'est une belle utopie.
C'est une belle utopie et c'était contre l'ensauvagement de l'Europe.
Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis. à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent.
Vous avez reconnu ce texte, Laurent Godet ?
Est-ce que c'est le discours sur le colonialisme ?
Oui,
oui, c'est magnifique.
D'Aimé Césaire, lu par le Jean Topard. C'était aussi pour rappeler qu'on est issu, que l'Europe c'est ça aussi, c'est celle qui a colonisé, c'est celle qui a tué, c'est la barbarie, c'est tout ça. C'était
absolument,
pour revenir sur cette idée-là.
Et puis Césaire fait un lien absolument vertigineux qui paraît maintenant évident, mais c'est le premier à le faire, je crois. Et en gros, ce qu'il nous dit, je vais simplifier sa pensée, mais c'est que l'Europe, en installant la traite négrière et en fait, s'habitue à réifier d'autres hommes. Mmh. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il parle de poison. Elle ne sent pas elle-même qu'en faisant ça avec le continent africain, en fait, elle court à sa perte parce que dorénavant, ce sera en elle. Et que finalement, on peut très bien lire ce qui s'est passé ensuite en 39-45 avec les camps de concentration comme une espèce d'aboutissement de ce que l'Europe s'est entraînée à faire pendant tant d'années avec d'autres hommes. Et ça, c'est une lecture que je trouve très belle. Et puis, on l'a entendu là dans l'extrait, ce qui est magnifique avec Césaire, c'est que c'est une pensée politique extrêmement puissante, mais mise en forme dans une langue qui ne cesse d'être poétique, qui ne veut pas quitter le territoire de la poésie.
Et là, on vous retrouve.
Il y a ça chez James Baldwin aussi, c'est magnifique, cette espèce de nervosité d'une langue à la fois intelligente et combative. Moi, je suis très admiratif de ces grandes voix rebelles, effectivement, qui parlent depuis la poésie, mais en invitant le monde politique.
Oui, mais justement, votre dernier texte, on peut tout à fait le qualifier d'intelligent et de combatif, parce que après nous avoir rappelé de quoi nous sommes faits et d'où vient cette idée, cette utopie européenne, vous appelez à un sursaut. Et là, c'est un texte politique que vous écrivez. C'est un texte de quelqu'un en colère. Vous êtes en colère.
Oui, 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 mais je pense que la colère, c'est bien. La colère citoyenne, elle est formidable. Elle nourrit le débat. Il faut à la fois de célébrer et condamner. Et c'est pour ça que j'avais envie de le faire, d'ailleurs, dans la forme du poème, parce que le poème n'a pas peur de la célébration ni de l'imprécation. C'est des formes qui lui vont bien. Et moi, en plus, je m'y sens bien dans ces formes-là. On est assez vite dans l'épopée, dans le lyrisme.
Oui, c'est ça. Ce qui est votre texte aussi, qu'on pourrait qualifier.
Et encore
votre
une fois, la colère fait partie des choses qui nous font avancer. Il y a de la colère chez Césaire. Il y a de la.
Ah oui.
Il y en a beaucoup, et
à
juste
aussi.
Titre, chez Baldwin aussi, et chez Frantz Fanon, il y en a beaucoup aussi. Donc, heureusement que la colère est là pour nous réveiller, pour nous déplacer. Alors, la mienne, je ne la compare pas à celle des gens qu'on vient de citer, mais vis-à-vis de l'Europe, j'en ai, bien sûr.
Alors là, est-ce que vous pouvez me lire un petit extrait là, de votre texte, page 179 ?
Sans transition. Allez.
On y va.
Je dis colère face au mépris du vote des peuples, qui parfois ont dit non, qui parfois ont rejeté ce qu'on leur proposait et dont on a méprisé la vie. Plébiscite menteur, escamotage de la voix des urnes, oh l'outrage démocratique qui viole l'expression du refus, petits arrangements d'arrière-cour dans laquelle la nation, croyant enrober son affaire, se coupe les doigts en se privant pour longtemps de toute légitimité. Je dis colère face à cette Europe qui n'arrive pas à inventer une hospitalité d'État.
Ça, c'est un extrait de votre dernier livre, Nous, l'Europe, banquet des peuples, Laurent Godet.
Il y a eu cet épisode-là. Là, on fait référence à ce qui s'est passé en France avec le traité de Lisbonne, la Constitution européenne. Et c'est, je crois, une des grandes fautes de la construction européenne. On ne peut pas, et il faut que ça nous serve de leçon, on ne peut pas demander au peuple de se prononcer et s'asseoir sur sa réponse. Parfois, la réponse n'est pas confortable. Parfois, c'est pas celle qu'on avait envie d'entendre, mais c'est comme ça. Le peuple est souverain et doit le rester. Simplement ça, c'est le combat politique. Et c'est passionnant le combat politique. Mais par contre, j'ai envie de dire et de redire qu'on peut rester dans l'arène politique, il faut y aller d'ailleurs, mais pour autant, ne déconstruisons pas tout de suite cette aventure qui nous dépasse, dont nous sommes les héritiers et que nous devons transmettre à ceux qui suivent. Parce que cette aventure-là, elle est unique. Où d'autres dans le monde, 27 pays, ont uni leur destin nulle part ailleurs. Ça n'a jamais existé.
C'est-à-dire qu'à la fois vous êtes critique, vous êtes en colère, vous y croyez. Vous pensez qu'il faut tenir.
Mais bien sûr, j'y crois.
Ce pari-là.
Bien sûr.
Qu'il faut s'installer, parce que vous parlez de banquet, qu'il faut s'installer, faire bombance et faire débat, dire notre colère, notre rage contre cette Europe, les déceptions de cette Europe, mais y aller.
Y aller, c'est-à-dire être là.
Je lis les derniers mots de votre texte. « Venez, dépêchez-vous, fracas et utopie, apportez tout avec vous. Que l'Europe redevienne l'affaire des peuples, ce sera heureux. Approchez, chauffe, tourne comme à l'origine, mais non pas de vapeur, sueur cette fois, non. De rage et d'idées. Chauffe, tourne, c'est cela que nous voulons, que l'ardeur revienne, que l'Europe s'anime. Change et sois, à nouveau, pour le monde entier, le visage lumineux de l'audace, de l'esprit et de la liberté. »
Je signe.
Zoé Varié sur France Inter.
Juste avant de revenir à cette année 2000 que vous avez choisie, Laurent Godet, je voudrais citer cette phrase qu'on retrouve dans votre dernier livre là sur l'Europe. Cette phrase de, vous la connaissez peut-être par cœur d'ailleurs, cette phrase de
non.
Camus, parce qu'on a entendu Cazares, Camus.
Non, malheureusement non.
Alors je la dis.
Oui.
Notre Europe est une aventure commune que nous continuerons de faire malgré vous dans le vent de l'intelligence.
C'est beau, non?
Ah, c'est pas mal du tout.
C'est beau.
Retour alors à l'an 2000, le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu. Laurent Godet, ça vous l'aviez remarqué.
C'est vrai, et pourtant on nous l'a vendu.
Hein. Ouais, mais ça n'a pas marché. En 2000, l'Inde compte officiellement 1 milliard d'habitants. En juin, le romancier Frédéric Dard, auteur des San Antonio, disparaît. Mmh. En juillet, la France remporte la Coupe d'Europe de football. Le 8 août.
Alors là, non, vous n'aurez rien de ma part.
Le 8 août, la Cour suprême du Chili lève définitivement l'immunité de l'ancien dictateur Augusto Pinochet.
Bon,
c'est bien.
Ça, c'est bien.
Mi-août, le sous-marin nucléaire russe Kursk sombre dans la mer de Barents. Vous vous souvenez de ça?
Non, pas tellement,
pas
en fait.
Pas du tout. Je ne sais pas où vous étiez en 2000 dans votre
écriture. Non, en 2000, j'étais dans mon truc, ouais.
Ça, vous allez vous en souvenir. Fin septembre, la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées provoque des affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité. Et ce sera le début de la seconde intifada.
Absolument.
2000 aussi, c'est la démission de Slobodan Milosevic. Ça, vous vous en rappelez?
Je me souviens, alors on parlait de la colère, je me souviens de ma colère, moi, de
Sarajevo,
de jeune homme. Je comprenais pas qu'on puisse laisser faire cette chose-là. J'étais révolté par l'absence d'action européenne vis-à-vis de ce qui se passait à Sarajevo ou à Srebrenica. J'étais pas le seul, hein, mais et j'en ai fait une pièce qui s'appelle Puits de cendre, qui est ma deuxième pièce, juste après Onisos le Furieux. Donc c'est des choses qui sont effectivement très présentes dans mon esprit à ce moment-là, effectivement.
Et qui sont aussi encore présentes dans votre dernier livre, parce que vous faites référence à la Yougoslavie.
Absolument, oui.
Ça fait partie de nos défaites.
C'est quand même une grande défaite, absolument.
Ouais. Alors en 2000, plus léger, Zebda remporte deux victoires de la musique, celle du meilleur groupe et celle de la meilleure chanson originale.
Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, dès qu'ils voulaient pas payer l'entrée 30 balles, on t'envahit la scène, on t'envahit la salle.
Laurent Godet sur Tomber la chemise, vous l'avez
absolument. Et puis c'est drôle, cette chanson qui est devenue un hymne de la colère joyeuse, en fait, qui très souvent est jouée et chantée dans les manifs. Donc voilà. Et puis je salue Majid Cherfi, qui est un auteur Actes Sud que je connais et que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est chouette de réentendre ça.
Alors retour à la réalité. En juin 2000, à la mort du président syrien Hafez el-Assad, son fils Bachar prend sa succession.
Comme il se doit, le Parlement syrien s'est drapé d'un gigantesque portrait de Hafez el-Assad bordé de noir. Il s'est même quasiment transformé en mosquée. Mais à l'intérieur, on fait bien de la politique. Exercice inhabituel pour le président de l'Assemblée, devant la presse internationale, c'est déjà rare, il a dû expliquer avec le plus grand sérieux que la Syrie est un état de droit, que l'abaissement de l'âge minimum pour devenir président à 34 ans, âge de Bachar el-Assad, sa promotion comme général, chef des armées, etc., tout cela est très normal. Bachar n'est pas encore idolâtré, rares sont les portraits de lui dans la ville. Pas de doute néanmoins, les jeux sont faits dans une semaine, 10 jours maximum, il sera parfaitement élu par le Parlement, vote qui sera ratifié par référendum.
Vous allez voter pour lui?
Oui, oui, c'est vrai.
Oui. Oui.
Qui l'autre?
Laurent Godet, que faut-il... Qu'est-ce que vous... Moi, je pense à plein de choses en écoutant cette archive. Je pense à ce qui se passe en Syrie, je pense au fait qu'il y a quelques jours, Bachar a utilisé encore des armes chimiques. Sur son territoire, je pense au silence, à notre silence, je pense aux 200 000 disparus, je pense à tout ça.
Mais oui, et moi ça me fait bizarre parce que c'est vrai que ça correspond à... J'ai la chance d'être allé en Syrie juste avant, en fait, c'était la dernière année de règne, si je puis dire, de Hafez el-Assad, donc c'était en 99, pendant l'été 99, donc je me suis promené à Damas, à Alep, à Palmyre, et de savoir qu'aujourd'hui ces lieux-là sont lardés de cicatrices et le seront pour longtemps, que des choses ont disparu, que le peuple... a horriblement souffert et souffre encore, hein. Tant de Syriens ne sont plus en Syrie, tant de Syriens sont meurtris dans leur famille. Ouais, non, c'est...
Et qu'il est toujours au pouvoir.
Et qu'il est toujours au pouvoir et que pour l'instant il n'a pas eu à rendre de compte. C'est une grande douleur, bien sûr.
Et c'est une de nos défaites.
Oui.
Grande défaite.
Oui, collective, parce que...
Absolument.
C'est pas que la nôtre, mais c'est même plus qu'une défaite, là, c'est le scandale de la politique quand il revêt ce visage-là, bien sûr.
Le plus jamais ça qui se...
C'est le problème avec le plus jamais ça, en fait. C'est qu'il a été prononcé tellement de fois que forcément on a des doutes sur sa capacité à assumer ce qu'il proclame. Malheureusement, il y a eu beaucoup de encore ça après les plus jamais ça qu'on a prononcé aux différentes époques.
Laurent Godet, c'est la fin de cette émission et avant de nous quitter, je voulais qu'on parle des mots.
Oui.
Et pour parler des mots, qui de mieux que Marguerite Duras?
Dans les deux pièces, il est question de mots à la traîne, de signification à la traîne. Comme si les mots étaient dans l'air et qu'ils cherchaient à se poser, à rentrer, n'importe où, dans un oiseau ou dans quelqu'un. Il y a comme ça toute une masse de mots, de langage disponible, une sorte de trésorerie, si vous voulez, du langage, d'un langage actif qui se place, qui se pose, là ou là. Le mot « God », le mot « guerre » pour la première pièce, et les mots « allô, allô, c'est moi » pour la deuxième. Les mots « allô, allô, c'est moi » qui sont dans l'air et qui rentrent par hasard d'après toujours la folie, dans un oiseau qui ne sait pas téléphoner. Alors, que deviennent ces mots sans téléphone, n'est-ce pas ? C'est un grave problème.
C'était Marguerite Duras, elle parlait là de deux pièces, le Chaga et la guerre, que j'avoue n'avoir pas lu. Mais j'aime bien cette image des mots dans l'air. Est-ce que vous aussi, dans l'air, les mots vous accompagnent, Laurent Godet ? Est-ce que là, vous êtes plein de mots dans cet air du studio ?
Alors moi, je suis pas sûr qu'il soit dans l'air. J'ai l'impression qu'il bouillonne à l'intérieur et qu'il y a un moment donné où ce bouillonnement fait qu'ils sont prêts à jaillir. Je dirais plutôt ça. Je crois pas que je travaille tellement comme elle le faisait elle avec les mots justement qui sont dans l'air au sens aussi peut-être où ils sont à la fois ils émanent d'elle, ils sont dans l'air autour d'elle, mais ils sont aussi dans l'air parce qu'ils sont dans la société, parce que ils sont dans l'époque. C'est peut-être un petit peu moins ma manière de travailler, mais j'aime beaucoup entendre Duras parce que il faut pas toujours ramener les écrivains aux auteurs qui leur ressemblent. Dans ceux qui ont une importance par rapport à nos écritures, il y a aussi des écrivains qui sont très différents de ce qu'on fait. Moi, par exemple, Duras, j'ai beaucoup lu Duras, j'ai beaucoup aimé Duras, j'ai recopié à la main des pages de Duras pour me mettre dans sa phrase. Je crois que j'ai appris des choses de Marguerite Duras, écrivaine. Je crois pas qu'on puisse le lire en lisant mes romans, je crois pas que ce soit très visible, mais peu importe, elle est très différente de ce que je fais, elle est dans un territoire d'écriture qui est radicalement loin de ce que je fais moi, mais j'adore sa voix d'auteur. Et puis au fond, elle est pas si loin non plus parce que on résume souvent l'univers de Duras à des histoires de couple, mais il y a pas que ça, il y a toujours une toile de fond qui porte quelque chose de l'épopée en fait. Je prends un exemple dans 10h30 du soir en été, il y a effectivement des couples qui ont des histoires de couple, mais il y a aussi un évadé qui vient de sortir d'une prison et qui marche sur les toits de la ville. Et sa présence influe sur les histoires de couple. Si on enlève l'évadé qui marche sur les toits de la ville, on n'a pas Duras. Et moi j'aime bien cette tension-là.
Laurent Godet, merci d'avoir passé cette heure avec nous.
Mais merci à vous.
Vous serez au Festival Étonnant Voyageurs.
Oui.
Qui aura lieu à Saint-Malo du 8 au 10 juin.
Oui.
Un des thèmes justement du festival, c'est l'Europe.
Avec le monde entier, parce que c'est ce qui est beau à Saint-Malo, c'est que tout le monde vient.
Tout le monde vient et vous parlerez d'Europe, vous,
oui,
particulièrement.
Absolument, oui.
Et autre rendez-vous, c'est le Festival d'Avignon, votre, Nous, l'Europe, banquet des peuples, ce long poème inachevé, hein, oui, parce qu'on ne sait pas comment ça se terminera.
Absolument.
Sera joué ?
Oui, il y a une mise en scène qui va être faite par Roland Osé et donc on essaiera de donner chair à ces mots.
Merci vraiment Laurent Godet
d'avoir
accepté notre invitation. Votre dernier livre, L'Europe, banquet des peuples, est publié chez Actes Sud, comme tous vos textes d'ailleurs.
Absolument.
C'était une journée particulière. Une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne de Lavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Guillaume Roux. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de franceinter.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier.